Et donc, nous avons quatre intervenants, pas seulement trois. On va essayer d'être disciplinés parce qu'on a pris une demi-heure de retard. Mais on va dépasser le temps, si vous voulez bien. Et je vais demander aux intervenants s'ils acceptent bien de diminuer du temps de leur parole, donc du temps de parole, donc juste 10 minutes. La question de l'information, je pense que ça a été dit à l'ouverture, est quelque chose de fondamental dans la construction de la démocratie. Qu'il y ait le pluralisme de l'information est quelque chose aussi de fondamental. Nous sommes en période de la construction démocratique et ça, c'est la base même de ce que nous voulons construire ensemble. Vous avez entendu aussi ce matin que la question des médias continue à poser problème et que l'information, on est passé du pro-Ben Ali au pro-révolution. Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre la révolution, tout le monde est pour la révolution, bien sûr, mais avec des nuances, des analyses différentes, de vrais débats. Malheureusement, cela n'a pas été vraiment réel dans cette période de transition des deux mois passés. Donc j'espère qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir débattre pour construire ensemble ce pluralisme et avoir des recommandations. Donc il y a quatre intervenants. Je vais donner la parole en premier à M. Nejil Bouri, qui est le président du syndicat des journalistes. Je n'ai pas besoin de dire que longtemps nous avons été privés de médias, de faire parvenir notre parole, que ce soit au niveau de la société civile ou que ce soit des personnalités ou des intellectuels. Et les premiers qui ont été brimés, c'est les journalistes qui n'ont pas pu mener leur travail à bien et qui ont beaucoup milité pour qu'il y ait un syndicat libre. Ce syndicat a existé avant la Révolution, mais il avait des difficultés à travailler aujourd'hui. Il représente, j'espère, les journalistes et on va lui donner la parole. Oui. À toi la parole, Neji.
Merci, Khadija. J'ai préparé un papier concernant les besoins de la société civile en période de transition. Et c'est pour cela maintenant que je vais partager une intervention concernant les assurances de la liberté d'expression et de la presse. Donc, ok. Marhaba bikoum. Bon, هو في الحقيقة في وضع كيف تونس بعد الثورة اللي صارت ما نجموش نحكو على أنه فما يعني تغيير ديمقراطي حقيقي بلاش صحافة حرة. علاش؟ على خاطر بالنسبة لنا الصحافة هي الفضاء. الفضاء الطبيعي، الفضاء اللي عنده مصداقية، اللي يتمارس فيه الحريات، اللي تتمارس فيه قيم كيف التعددية، كيف الاختلاف، حق الاختلاف، يتمارس فيه الحرية، ولا معنى لأي قيم ولأي مفاهيم إذا كان ما تمارستش على أرض الواقع في فضاء الصحافة. لكن المشكل الأساسي واللي يطرح، هل يمكن اعتبار كيف ما قال الوزير الاول الصباح قال مادام انا هنا دونك انا نعتبر نفسي غارون معناه بوغ اون بريس ليبر، هل يمكن اعتبار الخطاب وحده ضمان لصحافه حره؟ هذا السؤال يتسال، سيما انه احنا مع بن علي معناها اخذينا احسن الخطابات، وتعرفوا انه بن علي كان من اكثر الناس اللي يقول على حريه الصحافه وعلى حقوق الانسان، لكن الواقع كان مختلف تماما. دونك بالنسبه لينا اليوم لازم فما ضمانات حقيقية لصحافة حرة. ضمانات هذه هي ضمانات معناها مؤسساتية وضمانات قانونية. على المستوى التشريعي يلزم فما دي ريفورم با سولمون مش فقط للقانون الصحافة اللي لازم يتلغى نهائيا، اللي هو من أكثر القوانين الموجودة في العالم وفي المنطقة أكثر القوانين زجرية. نشوفوا أنه قانون الصحافة يعني تذكر يعني تقريبا 3/4 متاعه يحكي على الحبس. قانون الصحافة ما يعطيش الفرصة للصحفيين ولا حتى للرأي العام للوصول إلى المعلومات، ما فيش حق الوصول للمعلومة، ما فيش حق وحرية النشر. هو قانون زجري، قانون تضييقي، قانون إرهابي. أيضا بالنسبة للدستور، اليوم القانون وحده ما يكفيش، يلزم ضمانات، يلزم الدستور بكل وضوح يقول أنه مش فقط حرية الصحافة مضمونة موجودة في الدستور الفرنسي ولا في الدستور الأمريكي، ولكن يقول أيضا ولا حتى في الدستور القديم الفصل 8 من الدستور التونسي، مش فقط يقول أنه حرية الصحافة والرأي والتعبير مضمونة، ولكن يلزم ينص صراحة على أنه من يرفض ويمنع يعني تشريع قوانين من شأنها أن تحد من حرية الصحافة. هنا الدستور ينجم يكون ركور بالنسبة لحرية الإعلام، هذا على المستوى التشريعي. على المستوى المؤسساتي احنا طلبنا في اكثر من مره بانه يلزم الغاء الهياكل اللي تراقب حريه الصحافه، اللي معناها اللي تعمل يعني مراقبه وتوجيه للصحافه. وتعرفوا انه في الفتره السابقه معناها كانت الصحافه تقاد بالهاتف من قصر كرتاج من وزاره الاتصال، وكانت تعرفوا انه الصحفيين كانوا يعملوا تحت ضغط، العديد منهم دفعوا ثمن غالي وقاسي جدا، فما اللي دخل الحبس، فما اللي طرد من خدمته، فما اللي عانى يعني من التهديد. واليوم اليوم احنا على المستوى المؤسساتي نطالبوا باش تكون فما مؤسسه انستانس، مش كيف الانستانس الموجوده توا اللي هي انستانس بروفيزوار، لا تكون هيكل مستقل حقيقه ماليا ومستقل مؤسساتيا. الهيكل هذا هو يعني يكون مرجع نظر، يكون مستقل على الحكومة، هذا أساسي، ولكن يكون مرجع نظر بالنسبة لحرية النشر، يعني إصدار المطبوعات والدوريات، زاد حرية البث سواء كان إذاعي أو تلفزي. اليوم تعرفوا أنه في الفترة الماضية إصدار الصحف وإلا أعطاء الإذاعات والتلفزيات كانت تعمل بطريقة فقط يكفي أنك تكون قريب من عائلة بن علي باش تحصل على رخص إذاعة. احنا اليوم يلزم فما يعني مقاييس واضحة وشفافة، معناها تكون ديكايد شارج، ولكن الهيكل اللي يعمل الشيء هذا كله يكون هيكل مستقل، وتكون هيئة دائمة مستقلة حقيقة، مع إلغاء كل الهياكل. تم إلغاء وزارة الاتصال، اليوم فما هيكل آخر اللي هو معروف لا فاميز أجونس دو بروباغاند اللي هي لا تي سي يو، ما زالت عندها إمكانيات مالية كبيرة. الأجونس هذه احنا نطالبه بأنه يعني ما تكونش يعني فما تخوف، لأنه بالنسبة لنا احنا راهو المعركة الصحافة لا تنتهي، ومعركة الصحافة متواصلة. فما ناس من قوى سواء كانت قوى اقتصادية ولا قوى سياسية ولا قوى دينية من مصلحتها أنه باش تحط يدها على الصحافة، ولن تنتهي معركة حرية الصحافة. لذلك أنه الضمانات أنه ما تكونش هناك يعني وسائل حكومية أنه أي طرف غدوة يكون في الحكومة ينجم يستخدمها من أجل إرجاع الصحافة للمربع الأولاني اللي كانت فيه. لذلك أنه بالنسبة لنا نعتبره أساسي وجود ضمانات سواء كان على المستوى التشريع أو على المستوى المؤسساتي. المسألة الثانية هي أنه ما يمكنش نحكيه على حريات حقيقية، حرية الرأي والتعبير، حرية التنظم، حرية إذا كان ما حليناش الباب لابورتاي دو توت ليبرتي، سي حرية الصحافة هي الباب اللي ندخلوا منه لبقية الحريات. وهنا يعني نقول أنه مسؤولية ومعركة الصحافة، عادة أنه يلقى العاتق على الصحفيين، مش صحيح هذا، راهي حرية الصحافة هي معركة الجميع وأساسا معركة المجتمع المدني. يعني ربما يعني احنا كنقاب الصحفيين واجهنا مشاكل في المدة بعد 14 جانفي، يعني كانت كل الأطراف يعني تلعن في نقابة الصحفيين، كل الأطراف وخاصة الأطراف السياسية. فما توجدت هيكل اسمه مجلس حماية الثورة، وكانت عنده سلطة تقريرية، ويقول المجلس هذا أنه هو يحب يكون يراقب الحكومة ويسمي مسؤولين في يعني في الدولة. وقلنا احنا راهو دورنا كصحافة من الآن أنه نكون مستقلين، ودورنا كنقابة تكون مستقلة على كل الأطراف، مش تكون في أي تكتل سياسي. فكان هجوم علينا أنه إحنا ما كن نرفضوا أنه باش نحمي الثورة. إحنا نعتبر حماية الثورة أساسا هي حماية الحريات، هي حماية حقوق الإنسان، هي حماية حقوق المرأة، هي حماية مسار ديمقراطي حقيقي. وهذا كل مش دورنا فقط كصحفيين، وإنما دور يعني كل مكونات المجتمع المدني. إحنا بعد شهور قليلة، بعد 3 أو 4 شهور باش نلقوا روحنا في محطة مهمة برشا، وهذا باش يكون أول امتحان حقيقي للصحافة التونسية. اليوم جايتنا انتخابات، والانتخابات باش تكون فيها اكثر من متسابقين، سي وكان مش فقط لاسامبلي كونستيتيونت، لا من بعدها باش تجيب انتخابات اخرى، ولكن حتى في الكونستيتيونت اليوم انه مجال حقيقي للصحافه باش تكون صحافه محايده، صحافه مستقله، يعني انه تكون على مسافه من كل المتسابقين لهذه الانتخابات، وعلى انه الصحافه تكون مجال مش فقط للاعلام لايصال المعلومه يعني بكل مصداقيه دون توجيه او توظيف، ولكن ايضا لفتح المجال لمختلف الاراء. مساله اخرى ما تقلش اهميه بالنسبه لنا، وهو انه مطلوب اليوم يعني انه حمايه وتوفير الضمانات الصحافه حره، ينطلق ايضا من حمايه الفاعلين في داخل مجال الصحافه وهم الصحفيين انفسهم. اليوم احنا كنا نعمل بوسائل وبادوات وب يعني موارد بشريه مهمشه الى ابعد حد، يعني لا تتخيلوا عمليه التهميش اللي صارت بالنسبه لمؤسسه الاعلام وللصحفيين انفسهم. واذا نلقوا نظره على واقع الصحفيين سواء كان يعني في ظروف التاجير وظروف العمل، يعني تركيبه المؤسسات اللي يعني مؤسسات كانت دائما تعمل بدعم غير واضح، وهنا تطرح مسألة الفساد المالي داخل مؤسسات الإعلام. ما يمكنش اليوم نحكي وزادة على أن مؤسسات قادرة باش تصنع الصحافة حرة إذا كان المؤسسات هذه ما تعملش وفق شفافية مالية واضحة، إذا كان المؤسسات اللي باش تنطلق واللي باش تعطى لها تراخيص ما تكونش تتم بكل شفافية ووفق مقاييس واضحة. يعني في اعتقادي أنه معركة الصحافة مازالت طويلة، هي تبدأ من داخل أقسام التحرير، من داخل يعني قاعات الأخبار بإعطاء الفرصة صانعين القرار الصحفي نفسهم من خلال إعطاء، ما يكونش لأنه لا يمكن أن حرية الصحافة تكون بقرار سياسي ولا يمكن تكون بمساندة خارجية. من داخل قاعات التحرير ومن داخل قرار الأخبار الفرصة للصحفيين في انتخاب معناها مجالس تحرير قادرة تكون عندها دور في تحديد الخط التحريري، قادرة تكون عندها دور في رسم يعني التوجه الإعلامي. أيضا فما يعني وسائل إعلام جديدة احنا نفكروا فيها اليوم يعني كنقابة، ولكن احنا ربما كتوانسة كل يزمنا نعود ونفكروا فيها من جديد. اليوم الفضاءات التفاعلية في الانترنت، لي بلوك، الفضاءات الاجتماعية هذه زادة يزمنا نفكروا فيها، لانه كان عندها دور كبير برشا. اليوم يكفي ان تكون صحفي ان يكون عندك يعني هاتف جوال مزود بكاميرا، يعني المعلومة أصبحت لها انسيابية كبيرة. ولكن بالنسبة لنا أنه المعلومة يجب أن تكون بمصداقية، أنه الإعلام دوره زاد مش الثلب، مش يعني يعني البث على الكراهية ولا العنف، وهذا الكل يجب يتم مش وفق القانون. احنا شفنا وقت البارح فما مشروع قدمته لجنة تسمي نفسها لجنة لإصلاح الإعلام، قدمت مشروع، ومشروع بالنسبة لي يخوف برشا. المشروع يقول أن الصحافة يلزم تكون محدودة، والحد يلزم إجراءات زجرية في القانون لإلزام الصحفي بضرورة احترام أخلاقية المهنة. بالنسبة لنا إحنا المهنة نحفظ أخلاقيتنا من خلال ميثاق شرف إحنا نضعوه، مش دور الحكومة، مش دور أي طرف آخر. هنا يعني بالنسبة لنا الأساس هو كيفاش نعطوا الفرصة للصحفيين توانس، نفس الصحفيين لوسائل الإعلام، نفس وسائل الإعلام اللي في فترة ماضية خدمت الدكتاتورية، اليوم يلزم كيفاش وسائل الإعلام هذه وخاصة الإعلام العمومي اللي كان يسمى في السابق إعلام عمومي، كيفاش يكون إعلام، كان يسمى إعلام حكومي، كيفاش يكون إعلام لخدمة العموم، إعلام لخدمة توجه وطني. شكرا لكم.
شكرا ناجي. ناجي طرح المشاكل الهامة اللي اليوم معناتها لازمنا نكون ننتبهوا لها، لأن بناء الحرية والبناء الديمقراطية ماهوش فوضوي، يلزم معناتها مؤسسات ويلزم مشاريع معناتها تحقق هذايا، ولهذا يلزمنا اليوم نكون الكل حاضرين. دور شنو المجتمع المدني؟ هذم الكل مشاكل مطروحة لازمنا نحكيوا عليهم. شنو هو دور المجتمع المدني بالنسبة حتى للكونسي دو لا ريفولوسيون؟ شنو هو دور الصحافة؟ كيفاش باش نبنيو هذا الكل؟ تو باش نعطي الكلمة للأستاذ عربي شويخة وصديقنا، هذا مهم.
بارك الله فيك. ميرسي. Bon, tout d'abord, c'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous, mais également avec quelque émotion que je m'adresse sous la supervision de deux amis de longue date qui me sont chers, à savoir la présidente Khadija Chérif, mais également mon ami Rachida Nefer, que je salue affectueusement. Alors, je tiens à vous dire, et vous n'êtes pas sans savoir, que pendant une transition démocratique, c'est le cas actuellement ici en Tunisie, le fondement, je dirais, la garantie de cette transition repose en grande partie sur des médias libres, des médias pluriels et des médias transparents. Et dans ce cas, auquel cas, évidemment, il faut commencer par former de bons journalistes, mais également changer pour une grosse part la mentalité qui était jusque-là dominante dans les salles de rédaction, y compris parmi les décideurs. Or, nous avons constaté, avec le premier gouvernement qui s'est constitué le 15 janvier, un paradoxe qui avait germé à l'époque. C'est d'un côté, on avait supprimé le ministère de la Communication, ce qui est certes une très bonne chose, mais on avait créé un vide. Et à partir de là, on a assisté à une situation certes totalement inédite et pour laquelle la plupart des journalistes étaient plus ou moins perdus. Et ce qui explique qu'il y a eu, il faut l'admettre, un cafouillage au niveau de l'application des principes professionnels. On a vu des dérapages, on a vu pas mal de débordements. Également au niveau de cette nouvelle culture politique qui avait germé au lendemain de la Révolution, c'est que beaucoup de journalistes se sont, pour la plupart d'entre eux, trouvés face à des acteurs sur lesquels ils n'avaient aucune donnée, aucune notion sur leur biographie. Et également, un autre élément, c'est qu'on a constaté que dans des salles de rédaction, les mêmes pratiques se sont perpétuées, et ceci, évidemment, par, je dirais, la présence de certains symboles de l'ancien régime. Et à partir de là, compte tenu de tous ces éléments, on vivait plus ou moins un malaise. Un malaise qui s'est exprimé d'ailleurs par plusieurs, aussi bien des experts que par des citoyens, et qui était plus ou moins mal vécu dans différentes situations. Et début mars, le gouvernement avait pris la décision de créer l'instance nationale indépendante pour la réforme de l'information et de la communication, dans laquelle figurent six personnes, et présidée par notre ami Kamel Labidi, Sineji et moi-même, nous en faisons partie. Et le problème, c'est que, je tiens à vous le dire franchement, on voulait finalement, on avait supprimé le ministère de la Communication, et on voulait que l'instance, finalement, supplante le ministère de la Communication. Donc on nous a attribué des missions. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une instance avec des prérogatives. Nous sommes qu'une commission consultative. Et notre rôle se limite à faire des propositions pour des réformes dans le secteur de l'information et de la communication. Or, qu'entendons-nous par réforme du secteur de l'information et de la communication ? Cela va de la presse écrite, la presse électronique, des secteurs de radio, télévision, y compris du statut des journalistes, y compris des études d'audience, ce qui est énorme. Or, compte tenu des défis qui se posent à nous, je pense qu'il y a des priorités. Des priorités, nous en avons discuté avec mes amis, des priorités auxquelles nous devons faire face dès à présent. Quelles sont les priorités ? Tout d'abord, il nous paraît fondamental de nous préoccuper de la formation des journalistes. Je constate, personnellement, je suis enseignant de longue date à l'Institut de presse, il m'arrive souvent d'apostropher certains journalistes suite à des débats télévisés, et je constate quand il y a des erreurs qui sont commises, ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, mais c'est généralement de l'inexpérience et des difficultés de vivre, je dirais, cette situation de transition. Et auquel cas, il est plus que nécessaire d'organiser des sessions de formation de manière à pouvoir gérer cette situation de transition démocratique. Et vous le savez, évidemment, que les médias représentent un des piliers de cette transition. Alors, second problème qui me paraît fondamental aussi, c'est que nous sommes dans une situation où jusque-là, sous l'ancien régime, nous n'avons connu que des médias étatiques, c'est-à-dire des médias qui étaient le porte-parole du pouvoir en place. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'assurer une transition de médias étatiques à des médias publics. Or, la notion de médias publics n'est pas bien ancrée dans notre culture. C'est-à-dire comment faire en sorte à ce que la télévision étatique, ce qu'on appelait TV7, mais également Canal 21, deviennent aujourd'hui des télévisions publiques. Il en est de même aussi pour les stations de radio. Or, cette notion de public demande une formation, demande aussi, je dirais plus qu'une formation même, une prise en compte de ces notions fondamentales, et qui touche et qui concerne pas seulement d'ailleurs les journalistes, y compris les décideurs, y compris, je dirais même, les citoyens que nous sommes. Or, dans ce cas, évidemment, il faut aménager un cadre juridique, définir un cahier de charges, et nous sommes obligés, nous, amicalement, de faire appel aux pays qui ont connu la même situation de transition démocratique et voir comment ils ont pu, je dirais, négocier ce passage d'une télévision étatique, souvent de propagande, à une télévision publique qui soit réellement l'expression de toutes les opinions, de la diversité des opinions. Également, un autre problème qui se pose à nous, avec acuité, vu le calendrier, c'est la gestion des médias en situation de période électorale. Nous allons bientôt rentrer dans une période électorale, et vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays, depuis son indépendance des années 56, nous allons vivre des élections libres et démocratiques, et dans cette situation, les médias, surtout les médias publics, vont jouer un rôle considérable. Et je vous avoue franchement que nous n'y sommes pas encore préparés. Or, toute la question, comment, dès à présent, essayer de définir des objectifs de formation, d'aménagement d'un cadre, de nous inspirer des différents modèles qui existent, et nous devons, il me semble, dès à présent, considérer cette échéance comme une priorité. Deuxième défi auquel nous devons nous y atteler dès à présent, c'est que nous sommes assaillis de demandes d'autorisation pour lancer des radios, pour lancer des télévisions, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'existe pas de cadre juridique en Tunisie. Que les autorisations qui ont été accordées sous l'ancien régime furent plutôt des gratifications, c'est-à-dire elles résultent d'une volonté d'une personne. Or, aujourd'hui, comment allons-nous organiser ce secteur? D'autant plus que nous savons tous que les spectres des fréquences sont très limités. Donc, de quel droit allons-nous en donner aux uns et interdire aux autres? Et là, nous avons tout un problème de gestion de médias, des autorisations de fréquences qui se posent à nous. Alors là aussi, nous sommes obligés de faire appel à, je dirais, aux expériences, à nos amis qui ont vécu de telles situations, et voir comment peut-on organiser de manière la plus équitable et la plus transparente surtout, cette gestion des autorisations de fréquence, de façon à ce que les citoyens qui en demandent sur des critères précis. Et là, évidemment, nous devons aménager un cadre juridique, créer probablement une instance de régulation de l'audiovisuel, de façon à ce que ces critères d'égalité, de transparence, soient effectifs dans l'application des autorisations de fréquence. Donc, sans vouloir accaparer vraiment la parole, je voudrais que les missions auxquelles nous sommes confrontés de par cette instance sont des missions, certes, pour moi, elles sont plus excitantes, puisque c'est en quelque sorte un rêve auquel nous y avons beaucoup investi depuis les années 90, Irdija et Rachida en savent quelque chose, Neji aussi, et nous devons, c'est-à-dire, les gérer de la manière la plus lucide, la plus raisonnable. Auquel cas, je le dis franchement, il se peut qu'on soit amené à commettre des erreurs d'appréciation. De toute façon, nous ne sommes pas infaillibles. Il est un fait qu'on va essayer de se redresser. Et deuxième aspect qui nous paraît fondamental, c'est de compter beaucoup sur l'assistance internationale, c'est-à-dire l'assistance de nos amis qui ont eu à gérer ces situations de par leurs conseils, de par aussi les exemples qu'ils ont vécus. Et notre rôle aussi serait de synthétiser tous ces exemples et de voir quel est le modèle qui s'adapte le plus à notre réalité. En tout cas, ce que je viens de vous dire, je termine par cette phrase, Artija, si tu permets, c'est que la volonté, elle est là, elle existe. Nous sommes plus que disposés à travailler, s'il faut même, j'allais dire, plus que 24 heures. Mais il faut tenir compte aussi des limites. C'est une situation qui est totalement inédite, pour laquelle même nous ne sommes pas préparés. Et là, nous demandons l'appui de nos amis. Il se peut qu'on soit amené à commettre des erreurs, mais c'est beaucoup plus des erreurs qui sont dues à notre inexpérience et qui seront évidemment comblées. Donc, ce travail qui incombe à cette instance, c'est un travail qui ne va pas se limiter uniquement aux membres de cette instance. Nous avons besoin de toutes les expertises, de toutes les réactions, de toutes les critiques aussi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra construire des médias libres, transparent et pluriel dans cette réelle transition démocratique auquel nous souhaitons tous du fond de notre cœur. Et merci de votre attention.
Merci Arbi. Une fois de plus, Arbi nous inquiète après Neji pour voir le chantier qui est devant nous et le travail qui est à faire. Je voudrais juste, avant de donner la parole, à la suivante intervenante, je dirais que dans ce contexte dans lequel nous avons vécu difficilement, nous avons, avec Arbi quand même, et avec le CNLT, l'Association des femmes démocrates et la LTDH, suivi un petit peu l'observation des médias en période électorale. Je ne vais pas en parler maintenant, je pense que le document existe, il est très édifiant. Et nous avons eu énormément de difficultés à mener, à faire la formation des jeunes pour qu'ils puissent suivre la place qui est réservée aux candidats à la présidentielle comme aux législatifs à travers les médias. Et je vous laisse deviner, aussi bien en 2004 qu'en 2009, la place qui était réservée à la vraie opposition, la place qui était réservée aux femmes, alors qu'on parlait, qu'on avançait chaque fois, on vendait la Tunisie sur la question des femmes et de la modernité est inscrite et basée sur le statut des femmes et le rôle des femmes dans la société. Seule est apparue en 2009 Madame Ben Ali. Et là, je vous invite à voir le résultat et le document. Et j'en parlerai pas plus parce que ça demande aussi réflexion. C'est vous dire donc comment, comme disait Arbi, la formation, changer les mentalités. Tout ce qui a été dit, c'est un chantier énorme et je crois qu'on a besoin de nos efforts ensemble et de la société civile. Là, il faut qu'on discute de son rôle, même si l'autre atelier est réservé à cette question-là. L'information et la presse aussi font partie de la société civile, l'indépendance par rapport aux politiques et comment donner une information plurielle. Maintenant, je donne la parole. Alors, c'est de nos amis tunisiens qui ont pris la parole et qui nous ont décrit la situation. Maintenant, nous allons donner la parole à des amis qui viennent d'autres horizons, qui vont essayer de nous parler ou de nous donner quelques conseils ou parler d'expérience. Alors, j'en appelle là à notre ami Swajik Dolé, qui est de Reporters sans frontières. Est-ce que vous pouvez venir et prendre la parole, Samah Mirab, puis tu peux rester, il faut
Bonjour. Alors, en effet, je ne suis pas tunisienne. Il se trouve que je travaille à Reporters sans frontières depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de venir en Tunisie 3 fois ou 4 avant la chute du régime de Ben Ali. Et j'ai eu l'occasion d'y revenir 2 semaines après la chute de Ben Ali. Et en 10 ans, pour la première fois que je travaillais pour Reporters sans frontières. Donc, c'était un grand changement et un grand soulagement de pouvoir le dire pour une première fois. Alors je vais être relativement bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais et comme les précédents interlocuteurs l'ont dit, il y a de nombreux défis qui se présentent aujourd'hui à la société tunisienne. C'est, comme tout le monde l'a déjà dit, les médias sont vraiment l'essence même et les garants de la démocratie aujourd'hui. Sans ces médias, de médias libres et indépendants, il n'y aura pas de démocratie réelle en Tunisie. Après, c'est clair qu'il va y avoir tout un chantier au niveau juridique à mettre en place, avec notamment une nouvelle loi, un nouveau code de la presse qui garantisse, sur le papier en tout cas, le pluralisme, qui garantissent également qu'il n'y ait pas de peine de prison pour tout délit de presse, qui garantissent la possibilité pour tout journaliste de travailler, de pouvoir critiquer, de pouvoir de manière objective, mais de pouvoir vraiment écrire, rédiger, filmer tout ce qu'un journaliste peut vouloir faire. Il va y avoir aussi besoin de mettre en place une commission qui délivre des cartes de presse, parce que ce n'est pas au gouvernement de délivrer une carte de presse. Ça va être une commission indépendante. À vous, Tunisiens, de choisir qui composera cette commission. Ce n'est pas à nous, étrangers, de le faire, mais c'est à vous, Tunisiens, de choisir qui composera cette commission, mais il faut qu'elle soit indépendante afin que quelqu'un, en fonction de critères élaborés par cette commission, puisse dire « moi, je suis journaliste et cette carte me protège en tant que journaliste parce que je suis là, parce que je fais mon travail ». Il va y avoir aussi besoin d'une commission, et ça, la tâche énorme, pour attribuer tout ce qui est licence. Licence pour médias audiovisuels, donc radio-télévision, et pour la presse écrite. Pareil, à vous de définir les critères, mais il faut que cette commission soit pleinement indépendante. Ça peut être des professionnels de l'information, des universitaires, c'est vraiment à vous, c'est entre vos mains, mais il faut garantir qu'il y ait une indépendance et qu'il y ait une transparence du travail de ces différentes commissions. Ça, c'est le papier. Donc ça va être bien, limite, c'est plus facile. Une fois que vous aurez réussi à vous mettre d'accord, à mettre ça sur le papier, après, il va falloir mettre ça en pratique. Et on voit bien que le plus dur, ça va être ça. Qu'il y ait une réelle transparence, une réelle indépendance dans les pratiques. Et ça passe aussi par former la formation des journalistes eux-mêmes, la formation des forces de l'ordre. On voit bien, en tout cas moi pour travailler dans beaucoup d'autres pays, il y a un problème de relation très forte entre autorité publique, forces de l'ordre, et de l'autre, les professionnels de l'information, quels qu'ils soient. Et c'est s'il n'y a pas de compréhension mutuelle du rôle des uns et des autres, des journalistes formés à comprendre ce que c'est que les forces de l'ordre et ce que c'est l'État, et de l'autre côté, un État et les représentants de l'État et les forces de l'ordre formés à comprendre ce que c'est que le travail des journalistes, on va avoir des clashs et vraiment de nombreux incidents qui vont être relativement violents, certainement. Donc, ça passe par ça, et ça passe, et comme vous l'avez tous dit, et nettement mieux que moi, vraiment un travail de conscientisation des citoyens. Il y a aussi, et ça vous l'avez évoqué, le rôle des nouveaux médias. On ne va pas dire que la révolution était une révolution Facebook. Ça a été écrit dans tous les médias français, mais ça, on est tous bien d'accord que c'est bien une révolution populaire. Mais l'ATI est toujours en place, l'Agence tunisienne de l'Internet. Et même si elle peut avoir un rôle relativement... on a rencontré Slima Mamou l'autre fois qui nous a dit que c'était aussi un instrument pour le ministère de l'Intérieur, mais donc ça passe par une refonte, du rôle du ministère de l'Intérieur dans le contrôle même de l'information pour Internet et pour la presse écrite et audiovisuelle. Et donc pour aider justement en tant qu'ami de la Tunisie, Reporters sans frontières a déposé une demande de statut auprès du ministère des Affaires étrangères cette semaine. Je suis là pour voir comment ça peut avancer, s'il manque des papiers. Mais donc on sera là à vos côtés, on ne fera pas le travail pour vous, parce que ce n'est pas le but, parce que vous connaissez vos besoins nettement mieux que nous, on les connaît. À vous de les identifier et à nous de vous aider pour que ça se réalise en tout cas. Et j'espère qu'on revient dans un an et il y a beaucoup de choses qui auront changé.
Merci. Très rapidement, je voudrais quand même remercier Reporters sans frontières qui ont été aux côtés des journalistes, dénoncer tout ce qui s'est passé en matière de violation de l'information tout au long de ces dernières années. De même que je voudrais rendre hommage, même si la révolution était une révolution du peuple tunisien, personne ne peut le nier, mais le rôle aussi des médias, je dirais, de la nouvelle technologie, donc des réseaux sociaux, a été aussi quelque chose d'important parce qu'il y avait cette expérience de la liberté avec tous les risques que les jeunes, et rendre hommage aux jeunes, tous les risques que les jeunes prenaient pour filmer dans des moments difficiles, prendre le risque même de leur vie puisqu'on tirait et de mettre sur Facebook ces images qui ont aussi poussé à la solidarité pour que cette révolution se fasse. Et là, on ne peut pas nier que l'information est fondamentale et le rôle est important, d'où son importance aujourd'hui pour en débattre. Maintenant, notre dernier intervenant, je vous demande de venir prendre la parole, Monsieur Dolé, qui est expert de l'information à Bruxelles, donc en Wallonie. Et je vais ouvrir le débat, alors je vous donne 10 minutes au maximum, s'il vous plaît. Et nous allons pas lever la séance à 13h comme convenu. Si vous êtes tous d'accord, on prendra une demi-heure pour la salle, pour le débat. pour qu'on puisse échanger ensemble et sortir avec des idées claires et des recommandations. Merci. Ah oui, ça c'est sûr, mais si vous êtes d'accord, tous pour rester, une heure, je ne vois, ou trois quarts d'heure, on verra. Ça sera à la demande.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Alexandre Delvaux, je travaille pour la délégation Wallonie-Bruxelles, qui est, pour faire très vite, la partie francophone de l'ambassade de Belgique, qui, avec qui je collabore et qui m'a donc demandé de réaliser un état des lieux des médias ici en Tunisie depuis la révolution, depuis le 14 janvier. Alors j'ai rencontré pas mal de gens en quelques semaines, dans des journalistes, des étudiants, le syndicat, des personnes des nouvelles instances qui se mettent en place, des universitaires. Et j'ai mis donc dans cet état des lieux quelques constats qui me semblent pertinents de voir avant dans le cadre de la transition démocratique, non pas nécessairement dans le renforcement des médias pour les médias à long terme, mais dans cette période assez courte d'avant les élections et dans l'immédiate la durée immédiate après ces élections. Je voudrais revenir sur une première chose, c'est en termes de formation, l'ensemble de mes confrères tunisiens m'ont tous dit qu'ils souhaitaient, non pas qu'on parle de formation, mais plutôt de mise à niveau. Nous sommes quand même dans un pays où la formation de base, la formation initiale des journalistes a été faite. On peut débattre de la qualité, mais il n'empêche qu'il y a quand même, par rapport à d'autres pays en Afrique dans lesquels j'ai pu travailler, il y a une formation de base relativement bonne. Donc ce que les journalistes m'ont fait part comme message, c'est de dire, voilà, en termes de formation, nous voulons des mises à niveau et de croiser nos expériences avec nos collègues étrangers, nos collègues vivant dans des démocraties. C'est vrai que je pense que l'échange d'expériences est à la base de ce que l'on peut faire en termes de formation, et non pas nécessairement des formations ex cathedra théoriques sur la déontologie, mais plutôt des mises en commun d'expériences, des travaux pratiques, des masterclass sur le journalisme d'investigation en période électorale, le travail en termes de culture politique. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Le deuxième constat que j'ai pu voir, maintenant, c'est au niveau je voudrais parler un peu du syndicat national des journalistes tunisiens que j'ai rencontré, et je pense qu'il est très important de mettre en place un observatoire de la déontologie des médias. C'est un des souhaits du SNJT, je pense qu'il l'a mis en place, et je plaide pour qu'il y ait à ce niveau-là un appui à cet observatoire, et donc qu'il y ait une forme d'autorégulation qui soit faite par les journalistes eux-mêmes pour prévenir toute une série de dérapages déontologiques qui pourraient se passer avant ces premières élections. J'insiste sur l'importance de ça avant les élections. Parallèlement à ce travail d'autorégulation, je pense qu'il est important aussi, Monsieur Chouika l'a rappelé, mais qu'il y ait aussi une instance de régulation de l'information, qu'elle soit sous forme de deux instances, une instance de l'audiovisuel et une instance valable pour la presse, que ce soit une instance regroupant tous les supports médiatiques. Ça, c'est tout tunisien à le définir, mais en tout cas qu'il y ait là un mécanisme de régulation des médias qui soit mis en place parallèlement à l'autorégulation. C'est très important, parce que même si des acteurs étrangers qui observeront les élections feront probablement de l'observation des médias également, comme par exemple l'Union européenne fait en général, il est important que dès ces premières élections, il y ait, à mon sens, un travail fait sur la régulation des médias par les Tunisiens eux-mêmes, par une instance indépendante, autonome, mais de type instance semi-publique, par exemple, comme un conseil supérieur de l'audiovisuel. Là aussi, je pense qu'un appui sera nécessaire en termes de formation si une telle instance voyait le jour. Et là, il y a peut-être un problème aussi de cadre juridique, parce qu'il faut, comme M. Chouika l'a rappelé, un cadre législatif à mettre en place. Il faut organiser de telles instances, et il faut le faire, selon moi, avant les premières échéances électorales. Sinon, il n'y a pas de sens, il n'y aura pas à ce moment-là de régulation de ces premières élections. Ça, c'est ce que je voulais dire un peu pour les institutions actuellement. Je voudrais dire aussi que je pense qu'il serait intéressant. J'ai remarqué pour le moment, pour des raisons que nous connaissons tous, je dirais un peu l'arrêt des activités du CAPJC. Je pense qu'il serait intéressant de ne pas oublier que le CAPJC est un lieu de formation. Là aussi, j'ai entendu des acteurs me dire qu'il faut le réformer statutairement ou au niveau des programmes de formation. Je pense que c'est important de ne pas l'oublier dans la période actuelle. C'est un lieu de formation qui me semble tout à fait adéquat pour mener certaines formations. Alors, je voudrais aussi, dans cette optique, un peu mon fil rouge, c'est la proximité des échéances électorales, appuyer effectivement ce que M. Chouika a dit sur la rapidité. Si l'on veut avoir vraiment un paysage qui respecte la pluralité d'expression, la rapidité d'octroi de licences à de nouveaux médias. Et là aussi, si on veut ne pas qu'il y ait une situation ici où les journalistes qui travaillent sur ces élections soient tous issus de médias existants avant la Révolution, il va falloir travailler très vite sur l'octroi de ces licences. Faut-il des mécanismes provisoires ? Faut-il des mécanismes, quand je dis provisoires, qu'ils ne soient pas soumis à l'Assemblée constituante ? Faut-il qu'ils soient soumis au gouvernement provisoire ? C'est toute la question qu'il faut trancher, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a un risque à ce moment-là qu'il y ait une couverture. Et actuellement, certains sondages d'opinion, avec ce qu'ils valent, bien sûr, disent qu'il y a une certaine méfiance des Tunisiens par rapport aux médias existants. Donc, d'où l'urgence de créer des nouveaux médias, de leur octroyer ces licences. Ce qui amène aussi une autre question, toujours en rapport avec ces institutions, c'est la mise en place de systèmes d'audiométrie clairs, transparents et dont la méthodologie est acceptée par tous les acteurs. Là aussi, avant les élections, il me semble que c'est important. Je vois M. Chouika qui croule sous les choses à faire, mais je pense que c'est vraiment important. Et dans le même domaine, cette fois-ci je me tourne plus vers le syndicat, je dirais que il est évident, vous l'avez signalé aussi, que les journalistes travaillent dans des conditions assez précaires. Si à même niveau de diplôme dans d'autres secteurs, les journalistes gagnent moins que dans une banque, chez des opérateurs télécoms, etc. La précarité, le manque de conventions collectives est criant dans la profession ici en Tunisie. Et cette précarité peut entraîner, je dirais, des mauvais réflexes de travail de la part des journalistes et une plus grande tentation vers des phénomènes de corruption. Et il faut absolument aussi, non pas peut-être régler le problème dans son entièreté, le temps y manquerait, mais en tout cas être attentif à ce problème durant les élections. Et je souhaite qu'il y ait aussi de la part des entreprises de presse, c'est un constat que beaucoup m'ont signalé, qu'il y ait un interlocuteur patronal en face du syndicat national des journalistes pour discuter de toutes ces questions sociales et dans les entreprises de presse. On ne pourra pas y échapper, que ce soit avant les élections ou après. Voilà, j'ai voulu faire vite pour ne pas pour laisser un temps de débat. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Monsieur Delvaux. Alors, je vais donner la parole à la salle. Je demanderai à Neji et Arbi de bien vouloir nous rejoindre et de se mettre ici. Vous pouvez rester, on va mettre des chaises. Alors, je vais prendre une première liste et à votre demande, et en fonction de la demande, on décidera du temps. Ce que je voudrais que vous fassiez, un, vous présenter, deux, essayez de ne pas, s'il vous plaît, vu le temps, il est 13h, on aurait dû lever la séance, de prendre la parole pour poser des questions et non pas pour faire des développements, et pour que l'on puisse faire, pour être le plus démocrate, disons, et donner la parole à plus de personnes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Hein, je vais commencer, je vais arrêter cette première liste. Je vous donne la parole. Présentez-vous, excusez-moi.
Je m'appelle Fatih Pchir, je suis journaliste à Bruxelles. Oui, Fatih Pchir.
Oui.
Ah, d'accord. Il y a un micro là, pardon.
Oui.
Je n'ai peut-être pas une question très précise, mais un petit peu une remarque. Un peu ce que vous avez dit quand vous avez dit on a été longtemps privés de médias, mais j'ai entendu tout de suite les médias privés, parce que je crois, avec le départ du dictateur, je crois un grand danger. Et je me demande, je crois que vous l'avez un petit peu dit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres grands problèmes qui sont à résoudre, qui est le rôle des journalistes, d'une manière générale, et à Bruxelles, même s'il y a la démocratie et des codes de la presse, notre association de la presse se bagarre tous les jours. C'est une bataille quotidienne, et la question des nouveaux médias devrait être posée. Je ne sais pas, je suppose que vous allez aussi la prendre en compte, parce que c'est aussi une grave menace pour la presse professionnelle. Donc la presse citoyenne est encore, on ne sait pas très bien ce qu'elle représente. Elle peut représenter un grand danger. Le rapport avec les autorités publiques, je pense qu'il faut être sans complexe, parce qu'il y avait ici un dictateur à Bruxelles, par exemple, moi, les institutions européennes dans mon journal, le Parlement européen, par exemple, a déjà écrit plusieurs lettres pour me faire virer de mon boulot parce que je critique le travail du Parlement européen. Pourtant, ils ont des codes de la presse, ils ont tout l'arsenal juridique. Et donc, c'est une pratique de tous les jours. Il faut être sans complexe avec l'autorité publique. Vous l'avez dit, la liberté n'est jamais octroyée. C'est la bagarre des journalistes professionnels. Et en tant que journaliste, je ne reconnais qu'un policier de la presse, c'est moi-même, vis-à-vis de mon travail. Il y a une autorégulation du métier. Le cadre juridique, comme vous avez dit, Ben Ali pouvait avoir un très bon cadre juridique, il n'a jamais rien préservé. C'est la pratique de tous les jours. Et donc, pas de formation, mais je trouve élargissement des expériences. Et je pense que toutes les réformes à faire ne doivent pas être tunisiennes seulement. Elles sont à un niveau, je dirais, presque universel, et d'abord maghrébin. Je crois qu'il faudrait impliquer les confrères marocains, algériens, égyptiens et libyens pour essayer, avec des expériences proches, de trouver une pratique du métier, je ne parle pas de législation, une pratique du métier qui soit similaire.
Merci.
Bonjour, je suis Amira et oui, je suis blogueuse. En fait, je prends la parole pour parler d'un cas qui se passe actuellement, là, tout de suite, en Tunisie. Hillary Clinton vient aujourd'hui pour faire un talk show sur Nisma TV. Ça va être filmé tout de suite. Et on a trois journalistes blogueurs qui ont été invités.
Il n'y a plus de micro.
Pourquoi ?
Je parle trop fort, c'est ça ?
Non, vas-y.
Alors, il y a trois journalistes blogueurs.
Non, je parle au micro. D'accord. Alors, il y a trois journalistes qui sont aussi blogueurs qui ont été invités à ce débat, mais qui ont critiqué ouvertement Nesma et ses rapports avec le gouvernement actuel. Ces trois journalistes ont été exclus là de ce débat-là, auquel moi-même j'ai été invitée. Et je voulais savoir, avec le syndicat qui est présent, l'Institut national de l'indépendance, RSF, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci.
Merci. Mounia Khalel, enseignante. Moi, je voulais aborder la question de la formation des journalistes, s'il vous plaît. La formation des journalistes, on parle de certainement dans la situation d'urgence de, je pense, remédiation, stage, je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire. Mais moi, je pense aussi à la formation au niveau de l'institution universitaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en ce moment même, commencer à revisiter la programmation, le cursus, le parcours? Quand on parle de dérives maintenant, et Dieu sait si les dérives, on ne les voit pas tous les jours sur les... il y a le manque de savoir-faire, certes, mais le savoir aussi, je crois qu'il y a un lien très étroit entre le savoir et le savoir-faire. Et donc, il y a un manque de recul, nos journalistes collent trop à l'immédiat, donc il n'y a pas cette distance critique qui vient avec l'apprentissage. Merci.
Alors, Riyad Ferjani, je vais parler en français parce que je pense que la plupart des gens, c'est plus facile pour tout le monde, y compris pour moi. Donc Riyad Ferjani, je suis enseignant de journalisme et de communication à l'université de Menouba. Excusez-moi, je ne vais pas tenir un discours convenu, mais c'est un appel urgent à mes collègues et amis Larbi Chouira et Nejil Brouri, qui représentent aujourd'hui l'instance, Je n'aurai pas le temps de faire un diagnostic, mais je vais insister sur quatre points. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'essaie d'être poli, de ne pas me lever, hein, mais j'ai pas réussi totalement. Je pense que la question de l'honnêteté et des journalistes, c'est une fausse question. Au jour d'aujourd'hui, j'étais avec beaucoup d'autres, l'un des initiateurs d'un appel pour des médias libres qui a été signé par 500 intellectuels, artistes, etc. Et dans cet appel, nous avons appelé la première des choses à libérer le journal télévisé. Au jour d'aujourd'hui, 2 mois après la révolution, le journal télévisé est pire qu'il ne l'était sous Ben Ali. Pourquoi ? Parce que les journalistes continuent à être organiquement liés aux communiqués de presse. Ils sont pire que ça. Nous avons vu des publi-reportages après la nomination de Mokhtar Rassa, et j'assume mes responsabilités. J'ai dit que je ne vais pas tenir un discours convenu. Si Mokhtar Rassa a été nommé il y a une dizaine de jours, 15 jours, et le journal télévisé, parce qu'il est en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, ils ont élu un comité de rédaction. Moi, je dénonce ici l'incompétence et l'absence totale de professionnalisme, et je suis bien placé pour le dire, et j'appelle mes collègues de l'instance à prendre une position immédiate aujourd'hui pour prendre la question de la télévision nationale et du journal télévisé est une priorité. Il n'y a pas de démocratie sans médias libres. Vous parlez d'élections et de monitoring. Les élections, la campagne électorale, elle est en cours au journal télévisé, partout dans les médias, et d'une manière insidieuse et non professionnelle. Donc, le premier point, le journal télévisé. Je rejoins l'appel de la collègue blogueuse. Le dossier Nesma est un dossier d'une très très haute importance. Nesma, c'est un conglomérat. On a enlevé, enfin, Ben Ali est parti, et on est en train de créer un deuxième monstre. Le porte-parole, le directeur de la communication de Nesma est aujourd'hui porte-parole du gouvernement de Bejiqaïd Sepsi, que nous avons, enfin, tout le monde a été plus ou moins dans une perspective de dire voilà, on va laisser ce gouvernement travailler. La première erreur qu'ils font, c'est de nommer un directeur de la communication d'une chaîne financée par Berlusconi et dont Gaddafi a des intérêts dans cette chaîne-là, on le nomme au gouvernement. Qui était aux commandes ? Je n'ai rien contre les personnes. Qui était aux commandes le jour du discours de Bejiqaïd Sepsi ? Razi Qaroui, qui est le copropriétaire de Nesma. Si on arrive aujourd'hui à ce type d'interdiction, je ne pourrais pas vous faire. C'est tout un dossier et il y a d'excellents articles, malheureusement, qui continuent. Les meilleurs articles, les articles les plus intéressants sont continuent aujourd'hui à être publiés uniquement sur Internet, comme au temps de Ben Ali. Et accessoirement sur Al Jazeera. Je défie les journalistes tunisiens, je défie quiconque, enfin, à la télévision nationale, personne n'en a parlé. C'est un conflit d'intérêts majeur. Nesma, le président directeur général de Nesma, du conseil d'administration, excusez-moi, est Fathi Houidi. Fathi Houidi a été ministre de l'information sous Ben Ali. Ce monsieur-là, au jour d'aujourd'hui, il décide des invités, il décide d'exclure les journalistes. Nasreddin Ben Hadid a été exclu de cette chaîne-là parce que Nasreddin Ben Hadid a refusé de poser les questions écrites préécrites par la direction, et notamment j'accuse publiquement Fathi Houidi d'être le rédacteur en chef de Nesma. Donc c'est un appel. La troisième chose, il faut être... La troisième chose, j'ai deux points et je vais essayer d'être très bref. La troisième chose, Je pense qu'aujourd'hui, il est très dangereux de dire, de disculper totalement les journalistes. J'adore les journalistes, j'en ai formé beaucoup, mais il faut être très très lucide. Parmi les journalistes, il y a des gens qui ont du sang sur les mains. Et ce n'est pas une profession qui est désignée. Ce n'est pas une profession. Pourquoi je dis qu'ils ont du sang sur les mains ? Les gens qui, à la télévision nationale, avant le 14, nous ont insultés, nous ont traités de terroristes, de barbares, de bandes organisées, de factions, ces gens-là sont aujourd'hui encore, ils présentent le journal télévisé. Vous avez parlé de manque de confiance, c'est un euphémisme, monsieur. Le manque de confiance, c'est une... Les Tunisiens n'ont aucune confiance et ils n'ont pas besoin de sondages truqués pour le signifier. Ils sont dans la rue, they switch off, comme on dit en anglais, du discours de la télévision. Donc, parmi les journalistes, il y a un grand débat, il y a un vrai examen de conscience à faire. On ne peut pas construire des projets d'avenir sans que ce travail-là ait été fait. Au jour d'aujourd'hui, à la tête des grandes entreprises des médias, c'est des gens, il n'y a pas de nouveauté. On prend les mêmes et on joue, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu des chaises musicales. 2 mois après la Révolution, il y a eu un ou deux, je parle sous l'autorité des gens qui connaissent mieux cette question. Moi, personnellement, j'ai vu un journal, un petit feuillet, on dirait un journal d'opposition, un nouveau titre, un journal de l'opposition sous Ben Ali, très discret, non professionnel, etc. La situation, il y a une urgence. La quatrième chose, on ne peut pas construire des médias libres sans l'apport de la société civile. Et aujourd'hui, il y a la Ligue des droits de l'homme a beaucoup apporté du temps de la dictature. Mais dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à germer pour s'exprimer sur les médias. Au jour d'aujourd'hui, la société civile et les jeunes, les initiatives des jeunes doivent être prises en compte. Parce que moi, j'ai assisté à beaucoup de débats, j'ai parlé, les gens m'interpellent dans la rue et j'ai vu chez les jeunes qui n'ont aucune formation académique, des capacités d'analyse des médias supérieures à celles de beaucoup de mes collègues qui ont été très dominants sous l'ancien régime. Merci.
Merci. Je voudrais juste dire un mot. Je crois que vous faites bien de préciser, mais on est tous conscients de cette dérive. Et je crois que Sihem Ben Sedrine, tout à l'heure même, l'a dit en plénière, et nos amis, Neji et tout, nous sommes très conscients, que ce soit Nesma ou le journal, rien n'a changé, il y a un travail fou. Maintenant, j'aimerais que l'on respecte le temps pour permettre aux autres de prendre la parole, même si c'était important. Bon. Après, c'est toi, Mounir.
Oui.
Oui, vas-y, Mohamed Salah.
باش نحترم الوقت برشا معناها خاطر على خاطرك انت بيان سور محمد صالح الخريجي لا ليغ تونيزيان دي دغوا دلوم الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان معناها برشا من الكلام اللي اتقال قبلي انا انخرطت فيه وان نوافقه لكن فما بعض النقاط اللي يلزم الواحد يثيرها صحيح انه احنا نعيش فترة في الوقت الحاضر على شكلة الثورة اللي صارت من سماتها هي أنها معناها جد بسرعة بغتتنا وبعدها هي الأحداث زاد كيف بسرعة دونك السرعة هذية كيف باش لزمنا نحترموها باش على الأقل نحطوا القاطرة على السكة باش ما تقعش ردة في جميع الميادين وبالخصوص بالنسبة للصحافة بصفة عامة اللي تقال الكل حول معناها حول علاقة الصحافة بالسلطة التنفيذية أو بالقوانين إلى آخره هذا ما فيه ما يتقال لكن فما جانب آخر يتعلق ب الصحفيين أنفسهم الممتهنين للصحافة والميديا بصفة عامة يلزم معناها يقع التفكير في سأقبل كل شيء معناها تقييم جريء وتقييم عميق لسلوك الصحافي بصفة عامة ولمستوى الصحافي بصفة خاصة. أنا مانيش موافق أنه ما نعرفش يظهر لي السيد اللي من بلجيكا قالوا له توانسة احنا نحبوا التأهيل لا ميزانيفو لا لا عليه سون كومبلكس شنو في كل بقعة الإنسان ديما قاعد ويتعلم ديما يتعلم لا نحبوا نتعلموا ونحبوا زادة كيف نتأهلوا زادة على خطر احنا نراو في هذا ونراو فيه بكل وضوح. النقطة الثانية في الاتجاه هذا وبسرعة هي هالفيسة اللي تقلبت عند العدد كبير منهم سواء كان صحفيين ولا جرائد وإلا تلفزات جرجوان اللي تقال على نسبة وغيره إلا الفيسة هذه اللي تقلبت. أنا نتسائل شنو اللي قاعدة تعمل فيه النقابة وشنو تعمل فيه اللجنة هذه اللي تكونت باش يوقفوا معناها يوقفوا ويرجعوا حد بلوتو لهذا. أنا نتمنى أنه يقولوا الجريدة هذه الناس اللي كانت تسب في الناس باختلاف أنواعهم كانت تسب فيهم وتسب فيهم سبان اللي ما يقبلوا حتى قانون وحتى حد دونك هذه الجرائد كيف نهكا ولا أشخاص كيف اللي راو فيهم اللي قلبوا الفيستا كاريمان جاء معناها ما نعرفش كأنه معناها نكزرسيس دو واحد دون زان سيرك داكروباسي جوستمون جنبزه احنا نقولوا جنبزه لغويه بعد تقلب في صافيس النوع هذا كنت نتمنى انه يتخذ موقف منهم الناس هذوم تفكروا كيفاش في التلفز البريود الاولى هذيك عباوها علاش عباوها على خاطر جوستمون اللي قاعدين يسيروا في التلفز من تالي اصحابهم هما ومتاعهم هما ويحبوا يخلقونا معناها ان ديريفاسيون باش نرجعوا وباش نمشيوا فيرانا فورتمون اللي صار الكل اون فالا لافورتي دونك جانسيست نلح على الموقف اللي يلزم ياخذوه. كيف النقطه الاخيره خديجه ما تخافش هني باش نكمل النقطه الاخيره هي يلزم يركزوا على نوع من الميثاق انشارت ديتيك داخل الصحفيين. احنا ما نحبوش شكون يتسلط عليهم وشكون يقول لكن يلزم انه يخلقوا منهم فيهم يخلقوا النوع من العقد شرف مهني يحترموه الناس الكل ويمشيوا فيه. وميرسي شكرا.
منى بن حليمه je vais pas être longue du tout c'est juste une seule question. D'après le travail que vous avez exposé, il est clair que ça va vous prendre beaucoup de temps pour arriver à mettre des instances de régulation, comment dirais-je, fonctionnelles. En attendant, j'ai entendu Sifriha dire qu'il va y avoir campagne électorale. Moi, je dis qu'il y a déjà campagne électorale, que depuis un mois et demi, on voit des candidats ou des futurs candidats sur les plateaux télé, qu'il n'y a rien qui est fait pour mesurer les temps de parole, quelle est éventuellement la décision urgente à prendre pour démarrer immédiatement cette mesure du temps de parole pour que des candidats ou des partis ne soient pas d'ores et déjà privilégiés par rapport à d'autres.
Merci.
Moi, je suis Mounir Hamemi. Je ne viens pas du monde des médias, je viens du monde de l'éducation. Et ce que cet atelier m'a beaucoup interpellée. Et depuis tout à l'heure, on entend parler, bien sûr, de points très, très importants relatifs aux journalistes, relatifs aux instances dans lesquelles, bien sûr, ils évoluent, qui les régit. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'autre partie des médias, c'est-à-dire les récepteurs de ces médias, c'est-à-dire le public justement qui entre guillemets, consomme. Je n'aime pas cette expression, mais je crois que si on ne s'intéresse pas, bon, on a parlé de la conscientisation des citoyens, pour être quand même juste, mais on est passé très très vite là-dessus. Alors moi, je pose la question, que faire pour que justement ce public puisse être suffisamment conscient, suffisamment actif, puisse avoir l'esprit critique nécessaire pour prendre de la distance, puisqu'on sait que le discours le plus honnête, le plus intègre, le plus transparent peut être aussi appréhendé d'une manière où il y a des déviations, où il y a des arrière-pensées, où il y a tout simplement un manque de compréhension. Je sais que ça va peut-être surcharger encore les personnes donc responsables de ces instances-là, mais ce que je dirais, c'est que peut-être ça serait aussi une façon d'établir un point de jonction entre cet atelier et celui qui est en train de fonctionner à côté, puisque ce n'est pas la tâche uniquement des gens responsables des médias mais, ou des journalistes, c'est aussi la tâche de la société civile de mettre en place réellement une éducation aux médias qui puisse justement aider le public et particulièrement le public jeune, je pense aux étudiants, je pense aux élèves des établissements scolaires et puis tous ces relais aux enseignants qui ont aussi une responsabilité très importante dans ce domaine. Voilà, merci.
Merci. Zainab Saïda Ourawza.
Anwar, oui. Oui, merci. Donc, Zainab Samandi, sociologue, chercheur et je le rappellerai, ex-directrice de la rédaction du mensuel indépendant et d'opposition politique jusqu'au début des années 80.
Démocratie,
oui. Donc, moi, je voudrais dépassionner un petit peu le débat et peut-être donc évoquer un pan, ce que je pense être un pan des responsabilités des médias et qui n'a pas été très évoqué. Et partir pour parler de ce point, de quelque chose qui m'a beaucoup frappé depuis le 14 janvier, donc, c'est le besoin des gens, des régions oubliées et des régions défavorisées, le besoin de ces gens, et d'ailleurs, de pas seulement des régions, mais du Tunisien moyen, du Tunisien commun, qu'on parle de lui, qu'on se soucie de ces problèmes et qu'on les reflète. Donc j'ai vu qu'il y a un besoin énorme donc, que ces gens soient reflétés, que les médias se fassent l'écho de leurs problèmes et de leurs soucis. Et donc à partir de là, moi je pense que la presse aujourd'hui, avec, donc, après le changement, après la révolution, n'est pas confronté que au défi du pluralisme, de la construction du pluralisme, c'est très important, mais également elle est confrontée au défi de dire la réalité plurielle. Hein. Il y a le pluralisme politique. Quand on dit pluralisme, je suis désolée, mais on pense surtout au pluralisme politique, mais aussi le pays, c'est une réalité plurielle. C'est une réalité, je dirais, plus que plurielle, très contrastée. Et je pense que parmi les défis auxquels est confronté le journaliste en Tunisie, c'est de refléter donc cette pluralité et ce caractère contrasté de la réalité. Et cela donc permet non seulement de réconcilier les médias avec les masses, parce que là aussi, il y a un problème. Bon, il y a, avec tout ce qu'on a vécu jusque-là, il y a une désaffection terrible par rapport aux médias. Donc, il y a à ce niveau donc, à réconcilier le rapport. Mais il y a aussi à, je pense, permettre aux décideurs politiques, et cela a une fonction démocratique également, permettre aux décideurs politiques d'être au fait des réalités et des zones qui sont souvent oubliées, en tout cas qui sont lointaines, qui ne sont pas la capitale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
Alors, j'ai 4 personnes hein, et j'arrête la liste parce que ça devient laissé à nos amis pour répondre.
Shukran, Khadija. ملاحظاتي باش تكون معناها وجيزة فتحية السعيدي أستاذ علم الاجتماع. طيب ملاحظاتي باش تكون وجيزة معناها جدا وباش نركز بالأساس على التلفزة. التلفزة معناها التونسية بالنسبة لي واللي ظهر بعد 14 جانفي يعكس ثقافة المؤسسة الموجودة، يعكس ولا هي نتاج لواقع مؤسسي داخل المؤسسة، لأنه في التلفزة ما فماش معناها كان الصحفيين، فما العديد من الأطراف المتدخلين في عملية معناها الإنتاج التلفزيوني، وكل واحد عنده آراء وكل واحد عنده معناها إشكاليات وإلى غير ذلك. هنالك العديد من الإشكاليات داخل المؤسسة مانيش باش نتعرض لها. اللي يهمني اليوم هو المستقبل. إيش معناها اللي يهمني المستقبل؟ لأنه الإشكاليات المؤسسية ممكن أن تكون فما مثلا دراسات ولا تكون فما لجنة إلى غير ذلك، هذه مسألة أخرى يقع معناها تطرقها مهوش معناها في ندوة كيف إنها أنها تأخذ برشا وقت. اللي يهمني كما قلت المستقبل. المستقبل يعني التلفزة العمومية اللي طرحها سي العربي معناها طرح معناها إعادة تحديد مثلا مفهومها إلى غير ذلك. التلفزة العمومية هي تتوجه للناس الكل، هي تلفزتنا، تلفزة المواطنين، وبالتالي محمول عليها أنها تعكس على الأقل التوجهات المجتمعية الموجودة. كيفاش ممكن أنها تعكس التوجهات المجتمعية الموجودة في ظل ظروف ولواقع هي تعيشه اليوم؟ معناها البليز أرجان بالنسبة لي أنه تتحدد معايير مرجعية، إطار مرجعي، أنكاد ريفيرونسيال اللي على أساسه يتعاملوا الصحفيين، ولا خطر مؤسسة التلفزة والإذاعة سيرتو هما مؤسسات نتاع تنشئة اجتماعية من وجهة نظر نتاعي أون طونك سوسيولوج. فما برشا حاجات اللي يلزمنا نتفقوا عليهم، شنو المعايير، شنو القيم اللي نحبوا معناها ننشروهم داخل المجتمع. في نفس الوقت التلفزة مش متعودة على التعدد، اليوم فما بلوراليزم، فما تعددية داخل المجتمع. كيفاش ممكن أنك تعكس داخل من خلال التلفزة العمومية اسونسيالمون الوطنية الأولى والثانية، تعكس هالتوجهات المجتمعية وما تتعسفش على حتى رأي وما تعطيش رأي أكثر من رأي؟ خاطر اليوم الرأى أنه بارش حاجة، وحتى لسونداج اللي تعملت كي تسأل شكون من الأحزاب اللي باش يكونوا منتخبة إلى غير ذلك، تلقى 3 أو 4 اللي تلقاهم في نهاية المطاف هما اللي ظهروا في التلفزيون، بما فيهم معناها حزب النهضة وغيره معناها من الوجوه اللي توجدت معناها في التلفزيون. في حين اليوم احنا اليوم عندنا 37 حزب، ممكن شي يولي عندنا 60 حزب إذا كان وصلنا للكونستيتيونت. المهم بالنسبة لي اليوم كيفاش نحضروا للكونستيتيونت، كيفاش نحضروا لهالمجلس الوطني التأسيسي اللي نحبوه يمثل جماهير الناس الكليكة ويمثل التوجهات وتكون فما توازن. هذاك علاش نقول يلزم فما معناها معايير مرجعية. ممكن هاللجنة المستقلة تفكر في معايير مرجعية مع نقابة الصحفيين. المعايير المرجعية نقصد بها الإطار الريفيرونسيال اللي على أساسه نحتكموا له بقطع النظر على ميثاق المهنة، هذيك مسألة أخرى يعملوها الصحفيين إلى غير ذلك. في نفس الوقت كيفاش ممكن أنه من خلال الحوارات التلفزية ومن خلال معناها الأخبار تتعطى أخبار على كل معناها الفعاليات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع بشكل متوازن؟ كيفاش ممكن زاد نراقبوه؟ كيفاش ممكن أنه في نفس الإطار معاه بالنسبة لي ماهوش كان قانون الصحافة معناها يمكن أنه باش يحل المشكلة، وهذه قلتها أكثر من مرة. قانون الصحافة يلزم معناها إعادة النظر فيه، لكن تكوين الصحفيين واليوم يلزم تكوين الصحفي أكثر من أي مرحلة أخرى. إذا فما دي فورماسيون معناها ولا دي سيكل معناها ورا بعضهم على برشا مواضيع. اليوم الصحافي وقت اللي نحب يناقش أني على العدالة الانتقالية يبدأ فيه مش معناها عدالة انتقالية، وقت اللي يناقش على أي موضوع يبدأ متملك من الموضوع نتاعو باش ينجم بوغ معناها بوفوار معناها أوريونتي معناها لو ديبا، وما يلقاش روحه أورجو كيما برشا معناها دي بلاتو معناها شفناهم في التلفزيون. هذه بشكل معناها سريع. شكرا.
روضة.
Alors, bon, moi, j'ai 3 petits points. Je voulais, maintenant, tout à l'heure, le collègue nous avait instruit sur les soubassements des relations qui existent entre la TV, la NESMA et chose qui avait été évoquée une fois furtivement sur le plateau de télévision. Et là, il vient encore de clarifier. Donc, cette méfiance vis-à-vis de ces TV privées qui ont pris d'assaut le paysage médiatique. Et ce qui m'inquiète encore davantage, c'est Hanna Baal. Hannibal, dont on connaît le patron, le responsable, et j'ai comme l'impression qu'on est en train d'attendre le jour où le scandale va éclater. Je ne voudrais pas ajouter à la surenchère concernant les bobards, mais paraît-il, l'après-midi où Nesma, où Hannibal a été interrompu en catastrophe et où Najib Chebbi est allé lui-même rétablir les choses sur les plateaux de Hannibal, il paraît, il y a un bobard qui dit que c'était Zine Ben Ali qui avait demandé à apparaître sur Hannibal. Quoi faire? Je regarde Arbi. La chose n'est pas facile. La chose n'est pas facile. Mais ces TV qui sont là, qui redorent le blason qui occupe. Kif Malilt le 13, Feli. Le 13, quand le cactus là, est apparu. Et Bambi Wikoul, Lila Aïd, et immédiatement après, les Kawef en plein couvre-feu, etc. C'est un énorme scénario. Comment être édifié, comment savoir, ne pas mourir idiot, ne pas en période de révolution, de liberté, etc. Qu'est-ce que c'est que cette Hannibal? Les gens qui continuent à trôner sont ceux qu'on a vus et qui ont joué le rôle qu'on sait. Donc c'est la même inquiétude et nous voudrions être un petit peu guidés, nous autres gens de la société civile, comment être avec vous, les gens qui sont aux commandes maintenant. Il y a Fimat Al-Aqbal privé, Fenya pour Neji, alors que il y a maintenant cet élargissement du conseil, le haut conseil tel qu'il est actuellement, étant donné que le Qouzat, avec qui nous sommes tous, etc., cette veille, est-ce que ce n'est pas mieux de se vous retrouver à l'intérieur pour assurer cette vigilance de l'intérieur? Elle n'a pas le taba, le taqriri, etc. Je crois qu'on a résolu cette question. Ah, ben c'est très bien. Alors là, l'équivoque est levé. Troisième petit point rapide. Alors, je retrouve mes esprits fils à fils, enfin, pas si fils à que ça. J'ai un troisième petit point. Et alors, s'il te plaît, oui, Michel Chanel, enfin, parce qu'on est en train de construire, n'est-ce pas, maintenant?
Oui, mais bon,
construire. Un petit point. Pour l'Arbi, les associations, maintenant, peut-être qu'on est sûrement appelé à mobiliser ce qu'il y a comme troupe, qui est malade, on est tous pris au dépourvu, mais pour la campagne électorale, pour la sensibilisation sur ces modes de scrutin, est extrêmement dur à expliquer, etc. Nous allons sûrement avoir besoin de la télévision, des canaux de transmission. Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager des cellules de coordination pour faire que, entre autres, sur les plateaux, les gens des associations puissent suggérer, dire, utiliser les canaux, mais aussi suggérer comment doivent se tenir faire des propositions qui peuvent aider les gens qui sont en passe d'organiser toutes ces campagnes de communication sur les élections et sur autre chose. Merci à tout le monde.
Merci, Raouza. J'ai un rôle difficile. C'est vrai qu'on est en train de construire, mais il faut donner la parole au maximum. Il y a un temps limité. Alors, Anwar.
Je m'appelle Anwar Mahala, je suis militant associatif et je suis aussi communicateur puisque il fut une période où on ne pouvait plus pratiquer du tout le journalisme, donc beaucoup de gens ont dû virer de l'information vers la communication. Bien, je voulais simplement, j'étais pas là depuis le début, mais je pense que dans le volet bilan, très rapide, je prends juste une minute pour dire qu'il ne faut pas du tout oublier la faute du père fondateur, Bourguiba. Bourguiba n'a pas fait de choses, on a suffisamment parlé de ce qu'il a fait, il a fait pas mal de bonnes choses, il n'a pas démocratisé ce pays, il n'a pas libéré la presse. Et sa faute est incontestable, il ne faut absolument pas, c'est-à-dire tous ceux qui viennent après lui, tous ceux qui viendront probablement, tant que le père fondateur n'a pas mis le train sur les bons rails, malheureusement, et c'est ce qui a engendré l'ère Ben Ali, et c'est ce qui engendrera d'autres avatars probablement. Deuxième chose importante dans le bilan aussi, saluer les gens qui ont lutté, qui ont combattu. J'ai à côté de moi Rachid Erchen, qui vit à Qatar et ils ont été touchés même dans l'alimentaire. Mawqof était à un certain moment avec Tariq Jadid, les seuls journaux qu'on pouvait encore lire. Et Mawqof a été donc privé de tout, de publicité, privé de subventions, privé de papier, privé de tout.
au point où des gens ont dû quitter. Je le dis pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan, si on veut être quitte avec tout le monde, il ne faut pas du tout saluer ces gens et aussi les dédommager parce qu'ils ont subi des préjudices. Ils y allaient de leur poche pour que nous puissions, une fois par semaine, lire quelque chose qui pouvait être lu dans ce pays. Donc, on ne peut pas passer ça par perte-profit. De même, on ne peut pas passer par perte-profit non plus tous ces pseudo-journalistes qui ont insulté des personnes honorables, il y en a pas mal qui sont dans cette salle, je n'arrête pas de les citer. Et c'est quelque chose d'absolument inadmissible et inadmissible qu'on les entende encore, ces mêmes personnes, et qu'on continue à les inviter, qu'ils continuent. On a l'impression que rien n'a changé, que je ne sais pas quelle est l'autorité qui va réguler tout ça, je me le demande. Mais c'était une question vraiment de morale, de salubrité publique. Autre chose, tout à l'heure, Mohamed Salah Al-Khrige a parlé de droits et de devoirs. Il a parlé comme si on devait réinventer la roue. Le code de déontologie existe. La déontologie, c'est la propriété des journalistes. Il faut que ce soit dit définitivement. Najil Brouri est là et il a suffisamment payé pour le faire savoir. Je pense que les journalistes, c'est des droits et des devoirs. Les droits sont assurés par la loi et les devoirs sont assurés par la déontologie, c'est-à-dire par les professionnels. C'est comme pour les avocats, comme pour les médecins, comme pour les architectes, pour n'importe quelle profession libérale. C'est la profession elle-même qui détermine les règles de son code d'honneur. Donc, il propose, lui, qu'il y ait un code d'honneur. Voyons, le code a toujours existé. Il faut peut-être le mettre au goût du jour. Mais pour que Najil Brouri et ceux qui viendront après lui exercent ce pouvoir disciplinaire qu'ils doivent exercer sur leur père, c'est à eux de le faire. Il faut qu'ils soient forts. Donc, c'est à nous de les aider, de les consolider, de nous assurer qu'ils sont suffisamment forts pour pouvoir jouer leur rôle. C'est eux qui doivent protéger leur profession et pas nous. Nous n'allons pas le faire à leur place. Mais eux, il faut qu'ils soient suffisamment forts pour le faire. Un dernier point, puisque Nesma a été évoqué, j'avais pris des positions concernant ce tribunal populaire et concernant l'affaire Ahmed Dounaï, et c'est très peu de gens avaient malheureusement soutenu ce que j'avais dit, et c'était clair, je ne défendais pas Ounaïs, mais je dénonçais le tribunal populaire. Ce même tribunal populaire a licencié, il n'y a pas 10 jours, 33 personnes. Personne n'en parle, on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est que cette conspiration du silence, que les médias entre eux, que les patrons de presse qui continuent à sévir dans ce pays, donc ils se tiennent les coudes. 33 personnes dans la rue, on n'en a récupéré que 5, il y en a encore 28 qui sont dans la rue, entre réalisateurs, journalistes, artistes, tout ça. Et donc ces mêmes personnes qui sont là pour nous faire la morale tous les soirs, pour nous expliquer que des choses doivent changer, ils devraient peut-être commencer par eux-mêmes et il faudrait peut-être que quelqu'un puisse leur dire stop, puisse leur dire qu'est-ce que c'est. Moi, je ne suis pas un farouche c'est-à-dire, moi, je crois au droit syndical. Et c'est quelque chose de fondamental. Ces gens-là, leur tort était de vouloir constituer un syndicat de base au sein de NESMA. C'est ça. Et ça, c'est un crime. C'est un crime. Et le patron de cette chaîne a dit, vous m'avez poignardé dans le dos. Vous imaginez? Bon, et je regarde, et la société civile est là, et je me demande quand est-ce qu'on va bouger, quand est-ce qu'on va apprendre à bouger, bon Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. On s'est assez tu. Merci, Khadija. Je me tais.
Merci, Anouar. Désolé. Je donne une seconde la parole à Alia, et après aux intervenants. Désolé, je ne peux pas. On a une heure de retard. Et...
Oui, Alia Chifchemeri, je suis avocate et membre du collectif 95 Maghreb Égalité. Il y a un aspect, je ne sais pas, parce que j'ai pris l'atelier en marche, peut-être que ça a été dit, mais je crois qu'il y a une énorme question qui est en train, en plus du fait que ces médias continuent à être gérés par ceux-là même qui étaient là et qui baisaient la trace des pas de M. Ben Ali et de sa famille dans le temps, en plus du fait que ils ont choisi les personnes qui doivent passer actuellement sur leur tribune. Ils continuent aussi à donner une image très, je dirais, à faire dans l'exclusif vis-à-vis des femmes. Voilà. Je pense que les médias, il faut rappeler aux médias d'abord, il faut trouver un mécanisme qui puisse permettre, comme pour la parité en matière de temps de parole, nous sommes actuellement en temps de période préélectorale, et il est très important que l'image de la femme ne soit pas celle qui est en train d'être plus ou moins véhiculée dans les médias. Il y a une exclusive vis-à-vis de certaines personnes. Radia Nasraoui n'est jamais passée, Nazir Al-Jiba n'est jamais passée. ça, il est très clair qu'il y a une exclusive. Je n'ai pas le temps de dire et d'analyser. On a analysé les raisons. Passons. De toute façon, on sait qu'ici. Il y a aussi... il ne s'agit pas de faire de la chasse aux sorcières. Avant-hier, il y a un papier qui a été publié dans Le Temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Homme-femme aphrodisiaque de la Révolution. Alors, écoutez, en plus, ce papier, il discrédite deux femmes qui ont été absolument, qui ont crevé l'écran. Maya Jribi, quand elle est passée à Nesma, face à Abrougui, je ne sais pas qui, enfin, le GTT est là, Brigui, et également Sihem. Sihem Ben Sedrine, elle a également, chaque fois qu'elle est passée, elle a crevé l'écran. Et ça, ça les dérange. Ça, ça dérange quelque part les personnes qui sont actuellement en train, dans les coulisses, ce que j'appelle moi ceux qui sont en train de tirer les fils dans les coulisses. Il est très important que l'image de la femme ne soit pas celle qui est actuellement véhiculée et plutôt celle des femmes qui sont engagées, qui sont militantes, des citoyennes simples, les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont été à l'avant-garde. Ardaïf, on n'a pas vu ni dans le triangle, ce que j'appelle moi le triangle du centre-ouest. Voilà.
Merci pour toutes ces interventions. Je vais donner la parole à nos intervenants panélistes. Je me suis fait violence pour ne pas aussi poser des questions, mais juste dire un petit mot, hein, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est de rappeler quand même qu'il n'y a pas assez aussi de femmes journalistes et que les femmes journalistes, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que les femmes journalistes étaient reléguées dans des... questions sociales et de grande importance, même si le social est quand même important, mais pas dans le politique, pas dans des questions et un enjeu de responsabilité importante. Et je crois là aussi, donc encore une fois, le chantier est énorme, les enjeux sont énormes, la campagne électorale commence, il est vrai. La question de Nesma, je crois qu'elle n'a échappé à personne. Et je rajoute et j'insiste sur ce qu'a dit Alia, les femmes n'ont pas été assez présentes, et des femmes particulièrement. Même si l'Association des femmes démocrates, par sa présidente, a eu une présence limitée, il faut dire aussi que c'était un peu à la demande parce qu'on ne voyait pas les femmes. Il y a des enjeux énormes sur des projets de société de demain, sur les politiques et les enjeux de certains candidats, et de cette presse privée, particulièrement Nesma, dont on doit réellement parler. Alors, la parole est à Neji pour répondre à toutes ces questions.
Voilà, ça va, c'est bon. Nous sommes complètement conscients, au syndicat de journalistes, que le travail est énorme. Le chantier aussi est énorme. On a beaucoup de travail à faire, notamment au niveau de la respect de la déontologie. N'oubliez pas que maintenant, nous travaillons avec les mêmes médias qu'ils ont servi Ben Ali pendant plus que 20 ans. C'est une réalité. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas lancé aucun nouveau média, ni un nouveau journal, ni une nouvelle radio, ni une télévision. On travaille avec les mêmes journalistes. Donc, c'est une réalité qu'il faut mettre en considération. Je veux répondre seulement à deux points. Le premier, qu'a dit notre ami Riyad, il faut libérer le journal télévisé. Moi, je dis, il faut libérer la presse tunisienne. La bataille encore n'est pas finie, n'est pas acquise. Jusqu'à ces derniers jours, on a remarqué des actes de censure en relation avec des dossiers de corruption, des dossiers de sécurité dans la télévision nationale, dans les radios et aussi dans le journal La Presse. On a remarqué de la censure. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Merci.
Merci.
Oui, merci. Alors, si vous permettez, bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les questions. Et là, cela montre encore une fois, je ne dirai jamais, que la question de la liberté de la presse ne relève pas d'une institution ou d'un organisme, c'est l'affaire de tous les citoyens sans exception. C'est à nous de nous mobiliser. Il faut que la société civile soit là pour protéger cet acquis. C'est un fait. Deuxième aspect, je voudrais vous dire, là, évidemment, je suis membre de cette instance. Alors, entendons-nous bien, parce qu'il y a une confusion totale à propos des tâches de cette instance. C'est une commission nationale, provisoire, consultative, qui est censée présenter des propositions, faire des propositions à propos de la réforme du secteur de l'information et de la communication. Personnellement, je trouve que c'est un chantier très lourd. Par conséquent, on va se limiter à ce que nous considérons des priorités compte tenu de l'agenda politique, à savoir les élections, etc. Autre aspect, je réponds ici à mon ami Riyad, c'est qu'il est un fait, quand on regarde le paysage médiatique, qu'il y a deux aspects. Il y a ce qui découle de l'inexpérience. Et je ne le répéterai jamais, nous sommes en train de vivre une situation inédite dans notre histoire. Et ce qui fait que beaucoup de journalistes sont amenés à commettre des impairs, des dérapages, des dérives. Et là, je le mettrai sur le dos de l'inexpérience. Mais vous avez l'autre aspect, qui est peut-être beaucoup plus dangereux, qui découle d'une volonté qui perdure, qui existe, et qui est généralement générée par les symboles de l'ancien régime. Et auquel cas, il faut les dénoncer. Preuve à l'appui. Donc je pense qu'il faut nuancer, Léa. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a ce qui relève de l'inexpérience, et beaucoup de journalistes, personnellement, il est arrivé de les appeler, ils me disent « Oui, mais monsieur, je n'ai pas de cadre, je ne sais pas comment faut-il gérer ce genre de situation ?» Et là, je me dis que nous avons un rôle, aussi bien toi, moi, formateur, que d'autres aussi, un rôle d'encadrement et je dirais de formation, pas seulement de mise à niveau, mais réellement de formation. Et je rejoins, je dis, Mohamed Salah, ça ne me gêne pas de parler de formation. Il y a une formation, il y a des recyclages à faire à ce niveau-là. Bon, alors, entendons-nous bien sur la situation actuelle. Moi, je dirais, pour donner une caricature, nous vivons une situation de métamorphose. Mais le problème dans cette métamorphose, c'est qu'il n'y a ni cadre, ni repère, ni locomotive. Donc ça va un peu dans tous les sens. À propos de la télévision nationale, je suis d'accord, Riyad, il y a énormément aussi bien du journal télévisé. Et je me dis que la solution passerait maintenant par ce transfert d'une télévision qui a été étatique et qui demeure encore étatique à une télévision réellement publique, c'est-à-dire transparente, indépendante, plurielle et surtout conditionnée par un cahier de charges. Or, tant que ça n'existe pas, il est difficile à l'heure actuelle de dire voilà ce qu'il faudrait faire ou il ne faudrait faire au nom de quels critères. D'autant plus que nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a tout un flou. Et ce flou, nous le voyons pas seulement dans la télévision nationale, mais également dans ce qui relève des médias privés. Nous savons que tous les médias privés, et tu le sais très bien, Riyad, ont été créés dans des conditions d'allégeance, je dirais de clientélisme politique. Bon, que faut-il faire aujourd'hui? Évidemment, c'est très facile de dire, il faut les interdire. Moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans cette logique. Et je dis, ma devise est grande, je m'interdis d'interdire. Par contre, j'ai un droit. Et ce droit, ce que devrait faire l'instance, c'est de vouloir surveiller, contrôler, au nom des principes démocratiques, à savoir transparence, professionnalisme, et surtout, égalité entre tous les citoyens. Et ceci relèverait des institutions qui n'existent pas encore. Donc, je voudrais vous dire, et c'est ça ce qui me gêne, c'est que ce dont j'ai peur, c'est que j'ai peur finalement, à notre détriment, qu'on fasse que perpétuer des pratiques déjà anciennes. D'interdiction, de contrôle, ce qui me semble, à moi-même en tout cas, je le refuse. Il est vrai que la situation n'est pas simple. Le dossier de Nesma, vous avez très bien fait, et je le dis en tant que citoyen. Par exemple, si mademoiselle, maintenant, vous faites circuler une pétition, je la signerai tout de suite pour le renvoi des blogueurs. Oui, d'accord, mais je vous parle en tant qu'instance. Le rôle de l'instance est bien précis. On ne peut pas aller. Par contre, en tant que citoyen, je réagis en tant que citoyen. Et ce que je vous demande tous, c'est de nous mobiliser dans ce sens. Bon, à propos des anciens journalistes, et je suis d'accord là, je n'ai pas arrêté de le dire, et je m'adresse ici au secrétaire général du syndicat, dès le 15 janvier, il y a un examen de conscience à faire. C'est très facile de me dire aujourd'hui, mea culpa, on tourne la page. Non, ce n'est pas si facile. Nous savons ce qu'a joué cette presse jeune, Neji, en portant atteinte. Et déjà, tu en as été toi-même victime, et d'autres personnes. Et ces presses existent et perdurent encore, et Anou a bien raison. Mais là, ça ne peut se faire que dans des cadres reconnus en tant que tel, à savoir le syndicat des journalistes. C'est à vous de le faire. Et à partir, le syndicat des journalistes, il me semble, est bien placé pour provoquer ce débat, cet examen de conscience, quitte par la suite à prendre des décisions qui déborderaient peut-être même du syndicat. Donc ce qu'il faudrait, c'est organiser et surtout faire attention de ne pas tomber dans les chasses aux sorcières, dans des règlements de compte, parce que ce qui est en risque, et je le dis en tout cas, le péril, c'est que cette transition démocratique est très fragile. Et les défis sont énormes. Et peut-être une des actions risque de faire finalement, peut-être probablement, échouer tout ce processus. Ce dont personnellement je ne le souhaite pas du tout. Donc soyons certes vigilants, mais soyons aussi lucides. Et merci.
Merci Arbi. Je vais donner la parole à Monsieur Delvaux, juste une minute s'il vous plaît.
Je voulais revenir sur cette question de formation, de mise à niveau, juste pour préciser une chose. J'ai fait un constat sur base de rencontres. Donc évidemment, j'entends ce que me disent les confrères tunisiens. La deuxième chose, c'est, je pense, parler de mise à niveau dans le cadre aussi d'une urgence. Comment former des journalistes en X semaines avant les élections? C'est dans ce cadre-là aussi que je veux le dire. Mais non, ça n'exclut pas non plus un travail à plus long terme. Et là, il y a probablement des expériences à mener avec l'IPSI, des échanges de professeurs, dans le cadre des refondes de programmes, des professeurs peut-être invités, et je ne parle pas nécessairement de l'Europe. Il y a des expériences de journalistes en Afrique du Sud ou dans d'autres pays qui sont passés par des transitions et qui n'ont pas du tout la même expérience européenne. Donc je ne suis pas pro-européen en tenant ce genre de discours. Ce que je veux dire, c'est que la notion d'urgence me fait parler d'abord de mise à niveau et de voir que des journalistes qui vivent des élections dans des pays où ils ont l'habitude de faire ce travail rencontrent des journalistes ici pour les préparer au plus rapidement. Ça n'empêche que dans une deuxième étape, il est évident que des formations plus poussées sont utiles. Ce que je voudrais éviter, c'est les formations ex cathedra de 200 journalistes dans un hôtel. Je l'ai vu dans certains pays sur l'aldéontologie. Je pense qu'ici, on s'est Je pense que les journalistes sont assez formés pour qu'on évite ce genre d'erreurs coûteuses. C'est un travail beaucoup plus de fond, avec à la fois des formateurs tunisiens ou étrangers. On ne peut pas faire de formation sur la culture politique donnée par un consultant étranger. Ça doit se faire en team, ça doit se faire entre journalistes étrangers, journalistes ici. C'est de l'enrichissement mutuel, je dirais. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
Merci à tout le monde. Je conclurai juste par une phrase. Arbi a dit le problème de la liberté de l'information de la presse est une affaire de tous. Un, c'est vrai. Nous, en tant qu'ONG indépendante qui avons résisté pour ne pas dire autre chose, nous avons toujours travaillé, que ce soit l'Association des femmes ou la Ligue des droits de l'homme, etc., avec le syndicat, avec les journalistes, parce qu'on sait que c'est la démocratie se construit avec nous tous. Et donc ça, c'est vraiment important. Et je remercie Amira, parce que quand l'information circule, donc Mademoiselle Lahioui vient de nous dire ce qui s'est passé sur Nesma et que les blogueurs ont été renvoyés, c'est ce qui fait que la circulation de l'information devient l'affaire de tous et on doit la prendre en charge tous. Et le dernier point, il faut savoir que nous venons de loin. Nous avons tous, c'est-à-dire que s'il y avait un secteur qui était sinistré, et très sinistré, c'était l'information et la presse. Et quand tout le monde était traîné dans la boue pour avoir dit une phrase qui était une critique à peine perceptible, nous étions traités de tous les noms, et je vous passe les détails, et nous n'avions droit à rien qu'au lynchage. Donc de tout ça, comment rénover? Comment réformer? Comment ne pas faire la chasse aux sorcières parce que nous n'allons pas nous défaire? Il faut dire une chose, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de complicité et beaucoup de silence. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir beaucoup de têtes que je n'ai jamais vues. Je comprends qu'il y ait une liberté, mais quand on souffrait et quand on avait besoin de soutien et que même réformer et écouter, les gens étaient absents. Donc comment aujourd'hui, nous, on ne peut pas se défaire de vous? Même ceux qui n'étaient pas présents, et on le comprend aujourd'hui, d'être ensemble pour aller vers le vrai chemin. Parce que ce que nous avons constaté, en réalité, quand vous parlez de Nesma, Nesma, elle avait sur les plateaux ou des gens en faveur de l'ancien régime, et on l'a vu au début, mais aussi tous les extrêmes qui ont le droit à la parole, mais ils l'avaient seuls pour ne pas faire réussir
cette révolution et a poussé vers le chaos et nous sortir un danger, certes, qui existe, qui est celui des islamistes. Et tout ça, c'était une réponse au régime de Ben Ali. S'il partait, c'était le chaos et les islamistes, ils étaient le rempart contre les islamistes, ils sont partis, les voilà ici. Et ça, c'était un jeu très dangereux et je pense que tout le monde est conscient. Et donc, c'est à nous tous et toutes et tous d'être ensemble pour être vigilants et aider le secteur de l'information à avancer avec nous et pas sans nous. Et je vous remercie.